a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot, et ça y est, toutes nos drôles de dames sont là. Simone Rovera est là. Julien Laurence est toujours parmi nous. David Lortolari nous a rejoint. Salut David.
Allô Fred, salut à tous.
Fred Hermel aussi est avec nous. Salut Fredo.
Hola chicos.
Elle est là, voilà. Kelly Garrett.
Alors sachez que c'est...
Ah oui, la vieille.
avant de poursuivre avec Julien Laurence, c'est terminé entre le Havre et le Red Star, 21e journée de Ligue 2, Christophe Lécuyer.
Effectivement, courte mais précieuse victoire des Havrais ce soir qui s'impose 1-0. Le but d'Alexandre Bonnet à la 54e minute. Belle opération pour les Havrais qui remontent ce soir à la 6e place du classement, à égalité avec Lorient avec 34 points. Le Havre a un petit point du podium ce soir.
Merci beaucoup, bonne soirée à toi Christophe. Oui, j'étais avec Julien Laurence donc qui nous parlait d'Angleterre. Alors Julien, tu voulais pas partir sans nous raconter la belle histoire du week-end qui concerne Liverpool, alors qui est toujours devant Manchester City au classement, qui a eu du mal à s'imposer. Hein. Victoire 4-3 face à Palace. Match qui a été compliqué et particulier pour James Milner notamment.
Oui, exactement. Qui a été expulsé en fin de match pour deux cartons jaunes presque coup sur coup, mérité d'ailleurs. John Moss, l'arbitre de la rencontre, sort le carton rouge. Jusqu'à là, on a vu ça plein de fois. Sauf que l'histoire qu'on a découverte ce week-end est que John Moss était l'ancien prof de sport de James Milner à l'école primaire.
Non.
Et aussi son entraîneur de. Alors en Angleterre ici dans les écoles primaires t'as une équipe de foot par école primaire en fait et puis après par collège etc. Mais donc James Milner était déjà très fort au foot quand il était en école primaire, il était capitaine de l'équipe. Son entraîneur était John Moss qui était le prof de sport qui ensuite a arrêté sa carrière d'instite pour devenir arbitre et qui a donc sorti un carton rouge à son ancien élève. James Milner samedi lors du match contre Palace. J'ai trouvé que c'est une belle histoire à vous raconter.
C'est marrant, ouais, peut-être qu'il faisait le bordel en cours de sport et qu'il s'est vengé.
C'est rigolo,
ouais.
C'est énorme la probabilité que ça
ouais,
se produise.
Ouais, c'est fou. Hein.
C'est quand même dingue. Ouais. Tu voulais rajouter un truc, Daniel, je crois. Tu voulais poser une question à.
Non, c'était. Je complétais l'idée que ceux qui sont devant sont des entraîneurs qui bossent depuis maintenant des années dans le club et ne pas oublier, si on parle de Sarri, des difficultés qu'il peut avoir maintenant, que Klopp, et je me souviens dans l'after à l'époque avec Philippe, les premiers temps, certains disaient à Liverpool que ça marcherait pas et qu'il fallait le virer parce qu'il a eu beaucoup de mal à construire son style et à avoir les joueurs qu'il voulait. Les débuts de Klopp avaient été compliqués à Liverpool aussi, quoi. Et c'est toujours mieux d'avoir un peu le temps de bosser.
Sur Sarri, seulement quand il arrive à Naples, on lui demande quand de ton Naples jouera bien comme l'Empoli. Et lui, dans 3 ans, parce que j'ai eu besoin des 3 ans pour travailler bien.
Après 3 ans, c'est quand t'arrives dans le très haut niveau, c'est un peu long quand même.
C'est
un peu long. Là, je pense que quand même.
8 ans. Laissez-moi 8 ans.
C'est un peu long.
Tiens, on parle de Naples. Juste un petit, une petite info. Le président de Naples est dans un palace parisien actuellement. On m'a envoyé un petit SMS.
Qu'est-ce qu'il fait?
Et en quoi c'est important
qu'est-ce qu'il fait? Je pense que ça va être un petit rapport avec le Paris Saint-Germain, je pense, non?
Alors lui est en vacances. Officiellement, il est en vacances avec sa famille.
Officiellement.
On sait déjà. On sait ça.
Au mois de janvier. Janvier, il est en vacances à Paris.
Pourquoi pas?
Pourquoi vous?
Alors d'accord. Alors Daniel, on n'a pas le droit d'aller. Attendez, je vous explique. Non, on n'a pas le droit d'aller à Athènes en été. On n'a pas le droit d'aller à Paris en janvier.
En janvier. Alors que t'es, y a pas de trêve, t'es président de la club, tu vas venir foot en mi-janvier à Paris.
C'est beau,
tu peux venir visiter, mais. Tu penses qu'il est réellement en vacances?
Franchement, ça me paraît bizarre d'être en vacances à Paris. Là,
l'info qui est sortie ce matin disait oui, peut-être qu'il est à Paris, déjà qu'il est à Paris, il va négocier. Je vois pas un président qui se négocie pour qui se déplace pour aller vendre un joueur.
C'est un peu bizarre aussi.
S'il y a quelqu'un qui veut le joueur,
pas forcément. S'il est ici, comme tu dis, avec la famille, ça peut être l'occasion
si quelqu'un veut profiter de ce voyage pour.
Les gars, on va libérer Julien Laurence. Julien, tu voulais rajouter un truc?
Nous, on va aller voir trouver après.
Non, juste pour finir. L'émission.
Vas-y, Julien.
Ce qui va être intéressant, ce sera de voir sa place au niveau des transferts à Chelsea. Higuain, bien sûr, qui va arriver, on sait que c'est son joueur. Si ça marche pour lui, très bien. Si ça marche pas, ça pourrait compliquer le mot qu'il a à dire dans les joueurs. Parce que n'oublions pas que Pulisic, par exemple, qui va arriver, qui a été recruté maintenant, mais pour la saison prochaine, Sarri a reconnu qu'il avait aucune idée que Pulisic arrivait. Qu'un jour, on lui avait demandé, il y a 3 mois, son avis sur Pulisic. Il avait dit que c'est un bon jeune joueur, mais qu'il avait découvert dans les médias anglais que Pulisic allait signer pour Chelsea. Et ça peut pas, la méthode Sarri peut pas fonctionner s'il est pas impliqué dans les transferts, dans les joueurs qui doivent arriver. Et Pulisic, clairement, montre que Chelsea a fait ce transfert-là sans avoir demandé à Sarri son avis.
Merci Julien d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée, Julien. Merci. Salut. Ciao, ciao. Les gars, je voudrais, on va vous poser une question à toutes les trois, nos drôles de dames, à David, à Simone, à Fredo. Alors, il y a une info qui est tombée, c'est maintenant officiel d'ailleurs. Kevin Prince-Boateng est prêté au Barça jusqu'à la fin de la saison. Lui qui était du côté de Sassuolo. Alors, c'est vrai que ça a commencé à filtrer dans la journée. C'est maintenant officiel là depuis quelques minutes là. Ça, c'est étonnant quand même, non?
Ah bah c'est une ça, mais franchement, parce que on savait que le Barça cherchait un remplaçant pour Luis Suarez, mais un remplaçant pas pour jouer les matchs importants, mais voilà, pour des petits bouts de match, pour des rencontres un peu moins importantes, parce que voilà, il y avait Mounir El Haddadi, vous vous souvenez, Mounir, hein, qui avait qui a fait une sélection en Espagne avec l'Espagne et qui lui empêchait de jouer le dernier mondial avec le Maroc. Voilà, Mounir est parti à Séville, il n'entrait pas dans les plans, comme on dit, d'Ernesto Valverde, et donc le Barça cherchait une doublure. Alors le problème c'est que c'est pas un vrai numéro 9, tout cas un joueur qui pourrait remplacer Luis Suarez sans faire la gueule. C'est ça le truc.
Bah, tu sais que Giroud a pas été loin du Barça.
Ben, c'est ça, il y avait Giroud, il y avait Morata, qui finalement va venir à l'Atlético de Madrid, et là, Kevin Prince-Boateng, c'était pas attendu du tout, mais moi ça me rappelle une opération très intéressante, les plus anciens s'en souviendront, d'Henrik Larsson, entre 2004 et 2006, vous vous souvenez?
Ouais,
il arrive comme ça, c'était un type déjà en fin de course, quoi. Et il était hyper utile au Barça, parce que il faut quelqu'un qui accepte un rôle secondaire, et franchement, Kevin Prince-Boateng, il est parti il y a 2 ans de Las Palmas et il revient en Liga, il va au Barça. Donc pour lui c'est tout bonheur. Je pense pas qu'il l'ouvre parce qu'il joue pas beaucoup. Mais en tout cas il pourrait être utile et on va voir. Mais c'est en tout cas le Barça l'a déjà fait avec Larsson.
Ça reste un choix étonnant parce que le mec est dans une toute petite équipe en Italie. Ouais. Que même si c'est un mec qui a eu et qui a toujours beaucoup de qualité, c'est un gars qui a un peu géré sa carrière de façon pour le moins très très bizarre.
Bah, il change de club tous les ans. Hein.
D'aller le ressortir de Sassuolo pour aller le mettre au Barça.
Non, et puis c'est surtout quand même de profil,
c'est presque aussi curieux.
On l'a même vu parfois jouer milieu relayeur.
C'est curieux que Choupo Moting quand il arrive au PSG, quoi.
C'est un vrai neuf pour le coup.
Et puis si c'est vraiment pour faire reposer Suarez,
Kevin Prince-Boateng était quand même largement au-dessus.
Oui,
et là, sauf que là maintenant,
c'est vraiment pour prendre le relais de Suarez.
C'est pour le faire souffler.
Même en termes de profil, ça correspond pas réellement.
En fait, il vient pour être sa bouteille d'oxygène.
Ouais, mais c'est aussi un profil différent. L'histoire, c'est intéressant parce que Barça s'est allé plusieurs fois cette année avoir joué Sassuolo. Un joueur qui suivait. Qui suit encore probablement c'est Berardi, l'attaquant italien, mais surtout on sait que le Barcelone allait voir Sassuolo parce que ça intéressait énormément le style de jeu de De Zerbi, et en regardant plusieurs fois Sassuolo cette année, ils ont vu que Kevin Prince-Boateng vieillit bien. Il est un avant-centre qui travaille énormément pour l'équipe, un avant-centre qui a marqué quand même 5 buts en 15 matchs cette saison. Oui, mais qui arrive à s'est projeté, a aidé beaucoup le
buteur dingue, voilà, ça jamais été un vrai buteur.
Mais le maximum qu'il est
aujourd'hui, c'est 8 9 buts. Il a commencé à jouer faux 9 ou quand même à faire une saison entière à faux 9 à Las Palmas. De Zerbi l'a vu, il a apprécié cette idée, c'est pour ça qu'il a fait arriver à Sassuolo cet été, et quand même aujourd'hui, c'était des joueurs importants dans l'équilibre de Sassuolo. Je dis pas qu'il
sera. Mais il sort toujours autant. Bah, Sassuolo va pas sortir des masses, quoi. De toute façon.
Non, là.
À Barcelone, c'est plus facile, quand même.
Oui. Il parle aussi d'une séparation dans sa vie privée, donc,
Non, mais elle est plus avec ça,
quand je l'ai retrouvé au Barça.
Ah oui, s'il y a une séparation et qu'en plus derrière, il va à Barcelone, oula.
Oh là là. Même si c'est plus que ça a été Barcelone, il y a encore 2-3 boîtes sympas.
Mais c'est la dernière occasion de sa vie, quand même, à niveau professionnel.
Tu veux dire dans qui
il
y a encore?
Tiens, David, il est quand même germano-galien, donc Rémi Boateng. Qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne, justement, de ce transfert?
Pris en Allemagne, on croit que c'est un poisson d'avril même, hein, littéralement. 129 matchs en Bundesliga.
Le poisson d'avril, c'est en janvier en Allemagne alors maintenant.
Ben non, mais
comment on dit
non,
poisson d'avril en Allemagne?
Il n'y a pas le poisson d'avril.
April Scherz, un truc comme ça, c'est l'équivalent de poisson d'avril en français, mais. Non mais il a quand même joué à Dortmund, il a joué au Hertha Berlin, il a joué à Schalke, il a joué à
Francfort.
Non mais attends, il a joué à Francfort avec lequel il y a moins d'un an il gagne la coupe. Il part comme ça un coup de tête comme il a eu souvent l'occasion de le faire dans sa carrière. 31 ans. Moi je suis surpris par le profil par rapport au joueur qu'il est censé faire souffler parce qu'il marque des buts effectivement. Boateng, il a un gros volume, il avait en tout cas en Allemagne un gros volume, joueur un peu unique dans ses capacités, dans son profil, relayeur comme disait Fred aussi. Je suis surpris, moi, de l'équivalence Suarez-Boateng. Après, ça a été un joueur très original et très intéressant. Ouais.
Alors après, c'est un choix d'Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, en accord, bien entendu, avec Ernesto Valverde. Bon, ils sont pas fous,
forcément.
Je veux dire, c'est quand même deux types qui connaissent un peu le football. Donc voilà, il y a un petit trou à remplir et ils pensent, ils font un pari sur lui. Mais je dis, quand est arrivé Larsson en 2004, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il vient faire, c'est un vieux, etc. Il a été hyper utile pendant deux saisons, donc pourquoi pas répéter cette
histoire. 2 millions de prêts et 8 millions d'options pour Barcelone pour l'achat à la fin de la saison.
Exactement.
Alors le Barça, Fredo, ils continuent leur transfert chelou en Chine là.
Lequel?
Je sais pas, là, ils sont pas en business pour faire un transfert en Chine, là. Et refourguer un mec là-bas. C'est une erreur, j'ai mal vu.
Parce que Mounir est parti à Séville, je vois pas de qui tu parles.
Je dois me tromper.
Mais qu'après, bon, qu'ils aient des contacts avec la Chine, que tout le monde a des contacts avec la Chine. Mais là, j'ai pas cette information-là. En tout cas, ça concerne pas des joueurs. Connu quoi.
Fredo, puisqu'on a un pied en Espagne là avec, on le rappelle donc, c'est officiel, le prêt de Kevin Prince Boateng du côté du Barça, prêté par Sassuolo avec option d'achat. On a déjà quelques résultats. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Séville. L'Atlético s'est imposé 3-0 à Huesca. Le Barça justement a battu les Ganes 3-1. Tu voulais faire un point sur les Français, les blessés d'abord d'ailleurs.
Oui, parce que c'est vrai que on a eu très peur hier soir pour Ousmane Dembélé. Je sais pas si vous avez l'image, parce qu'il y a eu un moment et on dit souvent, et Pierre le sait, que les pires blessures sont celles que les footballeurs se font tout seuls en général. Et hier, il s'est vraiment retourné la cheville et on a comme senti que le genou tournait un peu. Et on s'est dit aïe aïe aïe. Bon, finalement, c'est qu'une entorse. 15 jours maximum d'arrêt, donc tout va bien. Entorse au pied gauche, à la cheville gauche, pardon, d'Ousmane Dembélé. Ça le coupe un petit peu dans son élan, qui était quand même assez excellent. Il fait un très bon match hier, alors que Messi est sur le banc. Et il marque, d'ailleurs, il est au début, à la conclusion de son but. Et donc, voilà, plus de peur que de mal, mais on a vraiment cru que c'était assez grave. Mais voilà, grâce à Dieu, il a pas de problème majeur et il va pouvoir revenir à temps pour jouer contre Lyon en Ligue des Champions.
Et Benzema, alors, on en est où avec son
doigt? Alors, Benzema, rupture, vous savez, fracture du petit doigt de la main droite avec un tendon qui est touché. Il a joué avec une attelle contre Séville. Il a fait plutôt un bon match. Il a encore une douleur à cause de ce tendon. Voilà, il y a peut-être une décision qui va être prise demain. L'opération n'est toujours pas écartée. Et s'il devait se faire opérer, ce serait à peu près 15 jours d'arrêt, mais on attend des nouvelles demain après de nouveaux examens. En tout cas, l'attelle avec laquelle il a joué l'a plutôt bien maintenu et il a pu faire à peu près son travail correctement. Donc voilà des nouvelles de Karim Benzema qui est essentiel, qui est le joueur le plus utilisé par Santiago Solari depuis l'arrivée de l'Argentin sur le banc du Real.
Tu voulais faire un point sur Thomas Lemar également. Alors c'est vrai qu'il avait fait d'excellents débuts avec l'Atlético et là il commence à être un peu montré du doigt, là, critiqué Lemar.
Oui, alors il y a une enquête à la con, un sondage à la con sur des médias espagnols. Quel est pour vous les pires transferts de l'été? Et il arrivait deuxième pire transfert de la Liga derrière Batshuayi à Valence. Ce qui est tout à fait injuste et un peu ridicule, il y a beaucoup de gens qui votent et qui ne connaissent pas le football. C'est vrai que Thomas Lemar avait fait un bon début avec Simeone, il a joué
mais il a quand même du mal, Fredo.
Et il a un petit peu de mal, sauf que ça commence à s'améliorer. Il vient de faire deux très bons matchs contre Gérone en coupe et hier à Huesca. En fait, il est en formation avec Simeone et Simeone contrôle depuis le début l'évolution de ce joueur. Ce que demande Simeone, c'est que les choses qu'il fait, en général très bien dans son camp, au milieu de terrain, il arrive à les faire beaucoup plus proches de la surface adverse. Et ça commence à se voir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu...
C'est aussi pour ça... C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire en équipe de France, c'est que quand on le réclamait, même pendant la Coupe du Monde, et que finalement ça s'est bien passé pour les Bleus sans lui, alors que avant la Coupe du Monde, on pensait peut-être que dans un jeu qu'on avait tous envie de voir un peu plus offensif, Lemar aura une place dans un 4-4-2 par exemple. Les raisons qui poussaient Deschamps et qui l'ont poussé à ne jamais en faire un titulaire sont celles qui bloquent aujourd'hui à Atlético, dans un club dirigé par Simeone.
Oui, mais ça va mieux.
quoi. Ouais, non, mais ça, je te dis pas mieux. Que ça n'est rien. Ça évolue. Qui va pas y arriver ou quoi. Okay. J'explique juste. C'est
tout à fait franchir, tout le monde, d'accord.
Voilà, c'est ça.
Mais
voilà.
Il y a une chose importante. Alors, est-ce que vous avez vu la passe qu'il fait à Griezmann pour le troisième but de l'Atlético face à Gérone, même si on le sait, ils sont éliminés après.
Oui.
Bon, voilà, ça, c'est quand même du grand art, quoi. Voilà, c'est à l'extérieur du pied, un peu lobé. Enfin, c'est magnifique. Et là, il vient de faire deux bons matchs. Et surtout, et on va pas s'inquiéter vraiment pour Lemar, surtout. Il est extrêmement travailleur à l'entraînement, il écoute son entraîneur, tout le monde l'adore, c'est un bon mec, un mec intelligent, qui observe, qui parle pas beaucoup, mais qui observe et qui apprend. Donc il y a zéro problème avec Lemar. C'est-à-dire qu'il est dans une première année, dans un immense club qui s'appelle Atlético, avec un coach qui est en train de le faire grandir. Donc il y aura des moments difficiles, et je rappelle à tout le monde que Griezmann, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde,
bien sûr, a eu des problèmes au début.
Il a mis
aussi.
6 mois avant d'être titulaire à l'Atlético sous Simeone.
Le joueur auquel je pensais, c'est Malcolm. Avec rumeur de vente en Chine.
Pour
une somme qui pourrait être astronomique et qui ça tournerait évidemment le Barça, qui est un club qui aime beaucoup donner des leçons après la magouille Paulinho.
Il pourrait
se foutre de la gueule.
Il pourrait se foutre de la gueule du
football européen et notamment du PSG en faisant mal pour 50 millions.
Dans la même veine, puisque tu parles d'un club qui aime bien faire des leçons, j'ai vu un tweet de notre économiste préféré Pierre Rondeau sur la masse salariale, enfin le rapport masse salariale revenu d'un club qui doit pas dépasser 70% normalement sur les recommandations.
Marseille sont limites.
Ah là, ils sont pas limites, ils sont à 80%.
Ah, est-ce que le franquiste Tebas va s'élever et critiquer comme il fait pour le PSG?
J'avais une question pour Fred. Est-ce que quand on est à 81% comme ça, on en parle en Espagne pour un club comme le Barça? Parce que logiquement c'est sanctionnable.
Faut demander à Tebas ce qu'il en pense.
Si vous m'écoutiez un peu plus, ça fait quand même longtemps que je dis que le seul problème que pourrait avoir le Barça avec le fair-play financier, c'est justement depuis l'augmentation de Messi, parce que Messi leur coûte déjà 100 millions par an. Donc le problème du Barça, c'est la masse financière, c'est la masse salariale. Donc oui, le Barça a un problème, et le Barça va devoir dégraisser, sinon ils vont avoir des problèmes.
Et moi, ce que je voulais savoir, c'est juste si le franquiste Tebas allait crier au loup comme il le fait avec le PSG.
Alors je vais t'expliquer un truc, c'est que je sais bien que t'aimes pas Tebas, mais il est énormément décrié en Espagne, puisqu'il est en train de nettoyer beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, notamment la lutte contre le racisme, contre tout ça en Espagne. Donc il y a plein de gens qui le critiquent, mais Tebas est ce qu'il est, mais il est très bon pour la Liga et il n'est pas aimé par les clubs. Tu sais pourquoi il n'est pas aimé par le Barça?
Je veux juste qu'il regarde les affaires de la Liga comme il regarde celles des clubs français.
Mais c'est le premier à regarder les affaires de la Liga. Il y a des chants contre Tebas dans beaucoup de stades d'Espagne tous les week-ends parce qu'il veut faire évoluer les choses à sa manière, c'est-à-dire un peu abrupte, mais il a raison sur beaucoup de points. Sur la question de la masse salariale, alors par exemple on dit la DNCG ne s'occupe pas de même en France ou en Espagne de la masse salariale par rapport au budget total.
C'est lié au fair play financier.
Donc si le Barça dépasse, le Barça devra contrôler sa masse salariale. Ils sont sur le coup à ce niveau-là, mais je reconnais que c'est un gros problème puisque la masse salariale c'est 500 millions d'euros par an pour le Barça, ce qui est quand même énorme.
Ouais, c'est énorme. Freddy 13, 2 minutes 30, un mot sur le Real Madrid quand même. Alors Modric va beaucoup mieux et comme par hasard le Real va beaucoup mieux aussi. Hein.
Bah oui, c'est vrai qu'il a fait son meilleur match depuis le Mondial, Luka Modric. Et d'ailleurs le meilleur match du Real Madrid de la saison face à Séville, qui est un petit peu en perte de vitesse là depuis quelques semaines. C'est une très belle victoire du Real Madrid, surtout une très bonne deuxième mi-temps avec un Modric absolument rayonnant et un Modric qui a retrouvé l'influx. C'est le mot qu'on peut utiliser. L'influx physique, l'influx mental, l'influx. On sent qu'il est bien. Il est bien. Et donc, Kroos va revenir de blessure. Casemiro, il avait été absent 2 mois. Il revient bien. Il a mis un but de folie.
On l'a pas taquiné, ouais.
Ah ouais, ça commence à se remettre en place comme par hasard.
On est
fin janvier, ça sent déjà la Ligue des Champions bientôt, ils se remettent en marche. Vous me permettez une seconde pour raconter une histoire magnifique.
Alors vas-y.
Alors vous savez qu'en Espagne on aime bien se foutre de la gueule de Ramos dans le monde entier. Et Ramos ce week-end a fait un truc extraordinaire. À la fin du match, il est interviewé au bord terrain par la télé qui a les droits.
Qui est son match le match face à Séville. Hein.
Il a été formé au FC Séville, hein. Il est parti à 19 ans, mais donc voilà, c'est et il dit, il emploie un mot, testarazo, c'est-à-dire un qu'on utilise en espagnol pour dire un coup de tête pour parler de la frappe de Casemiro. Et là, tous les journalistes se foutent de sa gueule, les réseaux sociaux, nanana. Sauf que l'Académie espagnole est venue au secours de Ramos en expliquant que il avait très bien utilisé ce mot et que c'était un mot certes très peu usité pour décrire une frappe, mais qu'il avait raison. Donc que l'Académie espagnole, c'est comme l'Académie française, c'est le grand référent pour la langue espagnole dans le monde, qui est venu donner raison à sur un point de langage à Ramos.
Ramos, c'est un intello, quoi.
Oui, mais non, mais c'est-à-dire qu'on se fout toujours de sa gueule parce que
aussi
voilà,
qu'à l'Académie, il y a beaucoup de supporters du Real.
Oui, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de chroniques aussi de gens qui ont rappelé que tous les écrivains qui ont utilisé ce mot-là. Donc, on se fout toujours de la gueule des footballeurs en disant qu'ils sont des illettrés. Et ben là, Ramos qui donne une leçon de langue à plein de scribouillards qui se foutaient de sa gueule.
C'est amusant. Alors une histoire beaucoup moins drôle en revanche, et en un mot, demain Cristiano Ronaldo sera à Madrid pour ses affaires fiscales là, c'est ça?
Ben Ronaldo vient tout simplement pour éviter la prison.
Ah oui, effectivement. Ouais.
Parce que demain il va.
Donc il vient avec son carnet de chèques alors.
Il vient avec son carnet de chèques, exactement.
C'est pour alors, ça qu'il a raté son penalty ce soir.
Vous savez, il a ah bon? D'ailleurs, il doit être en train de voler là. Il va en avion, pardon. Il va arriver à Madrid cette nuit. Demain, en fait, en Espagne, on peut négocier. C'est comme aux États-Unis, pour certains points, on peut négocier une peine de prison. Il va prendre deux ans ferme, pas du sursis. Il va prendre deux ans ferme, mais en Espagne, quand la peine ne dépasse pas 24 mois et qu'il n'y a pas d'antécédent, qu'il n'y a pas de casier judiciaire, on n'entre pas en prison. On va pas derrière les barreaux, et il va quand même débourser 18,8 millions d'euros. Pas mal, et cette histoire sera terminée pour une fraude fiscale entre 2011 et 2014, mais pas de la petite fraude fiscale, hein, avec des sociétés écran, offshore, tout ça, nana. Donc voilà, donc demain...
Il y a quand même un jour qu'on se penche là-dessus, savoir pourquoi ils en viennent à faire ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que c'est les mecs à qui ils confient leurs intérêts, qui leur font faire ces choses-là? Est-ce qu'eux donnent leur accord? Il y en a quand même...
Il y a Xabi Alonso, je crois, aussi, demain, qui doit être écouté.
Ouais, alors Xabi Alonso,
Messi a été emmerdé par ça, Ronaldo, je sais même pas, mais
Mascherano, Mourinho, ils ont tous signé.
La liste est importante des mecs, soit ils ont des conseillers moisis, soit
Pep.
Xabi Alonso, c'est totalement différent.
Vas-y Fred.
Parce que Xabi Alonso estime qu'il est dans son bon droit, donc il refuse un accord. Il risque beaucoup, mais parce qu'il considère qu'il a été honnête, et donc lui va au tribunal parce qu'il refuse un accord.
Ok, merci Fredo. Dans quelques instants, la vie tranchée de David Lortolari. Ça concernera l'Allemagne, bien entendu. Simon le reverra toujours avec nous. Fred Hermel, bien sûr. Et Daniel Riolo. Et Pierre Ducrot. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo et de nos drôles de dames, David Lortolari, Simon le reverra. Et Fred Hermel, tiens, filons en Allemagne maintenant.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré que il y a eu une vague, si je puis dire.
Les mecs sont morts de rire en régie.
Non, mais c'est mythique.
On dirait Léon Zitrone, hein. Toute proportion gardée.
Ah oui, toute proportion gardée. Ouais, vraiment.
Enfin, toute proportion juste au niveau du poids. Pour le reste.
Voilà, pour le reste.
18e journée de Bouli, le Bayern s'est imposé 3-1 à Hoffenheim. Leipzig a perdu à domicile 1-0 face à Dortmund. Et Gladbach, ton favori pour le titre, sont là. Toujours ou pas?
Ah oui.
Ils ont gagné 1-0 à Leverkusen.
Ils sont à 3 points du Bayern.
Mais c'est pas le Bayern le leader, donc.
T'accroches pas jusqu'au bout. Ah. On dirait Fred Hermel qui s'accroche à Séville.
Je suis pas tout seul.
J'ai pas compris la blague.
Te casse pas, on a compris.
Alors mon David, t'as un avis tranché qui concerne l'un des buteurs du Bayern. Il en a claqué deux, c'est Goretzka.
Oui.
Et pour toi alors, il a fait un coup de génie, Kovac.
Oui.
C'est
le Goretzka en numéro 10. C'est la première fois de la carrière de cet excellent joueur. Tu parlais du national et de la D2 tout à l'heure. Je me souviens, Nico Villas, il y a quelques années, où tu disais, c'est un super joueur à propos de joueurs totalement inconnus. Goretzka n'est pas un inconnu, mais c'est un super joueur. Et on a redécouvert ce week-end. Attention, je suis là. C'est un joueur qu'on a redécouvert ce week-end dans une position qu'il a déjà occupée par le passé, mais qu'il n'avait jamais occupée au Bayern, la position de numéro 10. Et en fait, ce qui est flagrant sur ce match que le Bayern, qu'on a regardé ensemble avec Daniel, a gagné vendredi soir, c'est que en fait Kovac d'un coup de poker a résolu au moins momentanément le problème un peu compliqué qui se présentait à lui sur le rôle de numéro 10 dans un système en 4-2-3-1 avec donc un double 6.
qui peut être par exemple Kimmich, Thiago Alcantara ou Javi Martinez, Thiago, comme c'était le cas ce week-end. Devant ces deux-là, il y avait un embouteillage entre Thomas Müller, qui continue à être incontournable au Bayern pour plein de raisons, et James Rodriguez, qui fait la gueule, pour parler clairement,
pour plein
parce qu'il est sur le banc et qu'il n'est pas titulaire. Qu'a fait Kovac ? Il a choisi un plan C, qui a super bien fonctionné ce week-end. Il n'a mis ni Müller en 10, ni James Rodriguez en 10. Müller était à droite, parce que Robben était absent, et James était sur le banc à se morfondre. Et il a propulsé Goretzka en numéro 10, doublé de Goretzka, super match, son meilleur match dans toute sa carrière.
J'adore
en Bundesliga.
J'adore son deuxième but. Je sais pas si vous avez vu son deuxième but, il a l'air de rien.
En glissade?
En glissade. Il faut une coordination parce qu'en fait, il glisse avant que le ballon arrive. Donc, il sait qu'il va la prendre par terre, c'est-à-dire comme un tacle, et il la glisse sur la droite du gardien. Je trouve vachement, parce qu'en fait, il peut faire autrement. Il peut même l'attendre debout et tout, mais lui, il préfère y aller comme ça, et le geste est super bien fait.
C'est un joueur élégant.
Ouais, vraiment.
C'est un beau joueur.
De
c'est
foot,
un joueur qui sait tout faire, il peut jouer.
Il est pas vieux, non?
Il a quoi? Il a un gamin? Il doit avoir 23.
Jeune. Très bon joueur.
Il peut jouer, et il a déjà joué latéral gauche, latéral droit. Il peut jouer milieu défensif, relayeur, numéro 10, sur les côtés aussi au milieu de terrain.
Il y a un tas de joueurs allemands, nouvelle génération, on a l'impression qu'il peut faire 10 postes.
Il y a 23 postes, en tout cas.
Regarde même Draxler, voit parfois au milieu et tout. Même Love, il l'a fait jouer au milieu avec l'Allemagne.
Oui.
Même si, une fois, il l'a mis même.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs polyvalents, dans cette génération.
Et là, c'est une trouvaille quand même, parce que ça permet à Kovac aussi de s'affirmer lui. Et ça, c'était important au Bayern, parce qu'il fallait qu'il fasse ses preuves. Et on en discutait cet après-midi. Depuis décembre, il semblerait que ce jeune entraîneur, qui n'a finalement fait ses preuves qu'à Francfort jusqu'ici, ait réussi quelque chose, là. Ait réussi à s'imposer aussi, à convaincre aussi une partie au moins de son vestiaire. On a l'impression, Fred parlait tout à l'heure du Real qui se remet en place en voyant arriver la Ligue des Champions. J'ai la même sensation avec le Bayern. Quelque part, c'est pas un hasard.
Sauf que le Real, il voit arriver l'Ajax, et eux, ils voient arriver Liverpool.
Liverpool, bien sûr.
Le même adversaire.
C'est vrai. Mais n'empêche que là, il y a une trouvaille, il y a peut-être une solution supplémentaire. Ça donne une solution supplémentaire à Kovac, et c'est gagnant-gagnant, parce que non seulement ça a fonctionné contre un adversaire qui a quand même été pénible, notamment en deuxième période, vendredi, Hoffenheim est revenu à 2-1, il a fallu un super arrêt de Neuer pour éviter le match nul. C'était vraiment la solution, c'était la clé. Goretzka a réussi son meilleur match, je le disais, de sa carrière à ce poste.
On rappelle que le Bayern compte toujours 4 points de retard sur Dortmund au classement.
6
hein.
Exactement.
Six.
Je suis vraiment une vraie lampe maintenant.
Non, mais t'as raison de le rappeler.
Oui, alors, statu quo devant ce week-end, effectivement. Parce que
s'en rappeler.
6 points de retard, parce que Dortmund a réussi péniblement, mais a réussi le lendemain donc du match du Bayern, à gagner contre Leipzig à Leipzig. C'était pas fait d'avance, but d'Axel Witsel. Alors là, si vous me trouvez, messieurs, je vous mets au défi de trouver un joueur plus rentable que Witsel à Dortmund. Ils ont dû payer 20 millions d'euros pour le faire venir, quelque chose comme ça. C'est un joueur essentiel en Bundesliga cette saison.
Je me demande même s'il a déjà été si fort.
Exactement.
À part à ses débuts, quand il se fait repérer.
Tu sais pourquoi t'as cette sensation?
Dans le club.
Toujours parce que.
Jeu de mots qui arrive là ou quoi?
Non, rien à voir. Ah, c'est parce qu'il a joué dans des championnats qui étaient moins médiatisés. Il était très très fort au Benfica. Il était très très bon au Zenit.
C'est ce que j'essayais de dire, sans que visiblement tu réussisses à le comprendre.
Non, mais je savais que t'allais faire une allusion à mon passé portiste.
Oui, donc à ce club que tu détestes, Benfica. Quand on l'a vu là-bas, il donnait l'impression d'être un futur grand. Après, quelques choix de carrière ont pu faire croire que on l'oublierait, ouais. On allait l'oublier.
Le PSG l'a longtemps suivi d'ailleurs.
Là, il revient. Moi, je trouve que c'est un super joueur.
C'est un maître de jeu.
On l'avait vu déjà pendant la Coupe du Monde, il était très bon.
Gros rayonnement. Mmh. Là, il arrive quand même à faire oublier. Royce n'est pas là parce qu'il est légèrement blessé et l'entraîneur Favre a été obligé de se passer de Royce. Il y a des soucis aussi en défense. On va pas s'éterniser ce soir là-dessus, mais Julian Weigl, tiens, était des défenseurs centrales ce samedi, et il a été monstrueux aussi.
À partir du moment où Zorc dit il ne quittera pas Dortmund, Zorc, c'est pas un gars qui va passer pour un bidon.
Oui.
Donc il quittera pas Dortmund.
Oui, c'est mal barré, effectivement.
Très franchement, quand j'ai vu, quand c'est les mecs qui disent non, machin, mais quand Michael Zorc vient, dit il bougera pas de Dortmund, ça m'étonnerait vraiment qu'il bouge.
Faut repousser son départ à quelques mois au moins. Oui.
Ouais, voilà. Dans les clubs, faut toujours faire gaffe à qui il parle. Important.
Ouais, et à Dortmund, il y a quand même des poids lourds, y compris.
Tu parlais de Weigl.
Oui, alors Weigl,
c'est en défense centrale face
non, mais,
à.
Non, mais c'est pour. C'est
on
pour
vient dire... te le dire qu'il partira pas, qu'il se le relance
mais,
là-dessus.
Non, mais c'était essentiel.
Il va en parler.
C'était essentiel parce que il y a des joueurs clés à Dortmund et il fallait, alors que le Bayern était revenu à 3 points la veille, qu'il y avait un semblant de pression qui commençait à monter parce qu'ils ont eu 9 points d'avance. Ils n'en avaient plus que 6. 3 parce que le Bayern avait gagné la veille. Ils ont réussi par ces joueurs clés qu'on a cités. Royce absent, ok, Witzel a fait le boulot, Weigl était en défense, et puis aussi, j'entends les différentes drôles de dames qui vantent les gardiens de but dans les différents championnats. Là, ce week-end, on a été gâtés en Allemagne, avec Bürki qui a été énormissime. Le jeune Alexander Nübel qui a été flamboyant avec Schalke, qui remplace Fermat.
Qui s'est inventé une petite vie. J'entends les autres vanter les gardiens.
Oui, parce que moi j'écoute ce qu'il
dit. À quel moment Simone, il a vanté des gardiens italiens, ou Fredo, il a vanté des gardiens espagnols?
Le gardien de la Lazio a fait un très bel arrêt
décisif.
Elle est peut-être pas italienne.
Et d'ailleurs, tu sais quoi, Daniel, c'est pourquoi je l'ai vu?
Parce qu'il a un chewing-gum. Véridique. D'accord. Il mâche un chewing-gum tous les matchs, ce gardien.
Non, mais vraiment. Tu vois pas que ça l'énerve quand tu parles des chewing-gums? Il déteste qu'on parle de ça.
Je lui dis maintenant, je.
Non, mais faut dire des choses à Daniel, tu sais, faut lui expliquer clairement, toi, des chewing-gums. Il y a des gens qui mangent des matchs des chewing-gums. Moi, ça m'arrive même parfois en faisant l'antenne.
Ah, tu vois?
Ah, c'est pas très professionnel, hein, cela. Ouais,
exactement.
Non, mais tu le mets dans un coin de ta bouche, tu sais.
Ouais, mais c'est pas pro, Fredo, pardon. T'as un boulot oral.
Un chewing-gum, si c'est pour le mettre dans le coin de la bouche, à quoi ça sert? Un chewing-gum, c'est pour te mâcher.
Mais on voit que t'as jamais fait l'exercice.
Tu sais quoi, ta bouche.
Tu sais quoi, regarde.
Si c'est ça, tu prends un tic-tac. Si c'est pour avoir une bonne haleine.
Rui Costa, t'aimais bien, Daniel?
Ah, Costa, mais c'est classe internationale, Rui Costa.
Chewing-gum, à chaque match.
Non, pas à chaque match. C'est faux, déjà. Et je t'ai dit, hier, mais tu as, visiblement, tu ne comprends pas. C'est comme Cafu, comme Michael Jordan. Pour mâcher un chewing-gum pendant que tu joues, t'as intérêt à être un crack. Sinon, tu passeras pour un mec arrogant qui est pas sérieux d'avoir un chewing-gum quand tu joues. Voilà.
Voilà, tu vois.
Quand t'es Cafu, oui, tu peux. Cafu, c'était un monstre. Et Rui Costa aussi, c'est un joueur que j'adorais, même si c'est une idole du club détesté de Nico Villas.
Pourquoi c'est moi qui
tu préférais Rui Barros à Rui Costa?
Mais attends, mais je préfère...
Tu crois qu'on l'a oublié,
mais
ça?
Je préfère Rui Barros à n'importe qui. Tu peux me mettre n'importe qui en face. N'importe qui, je te jure,
quel
ce
joueur.
Sera Rui à jamais.
Voilà. Et je remercie Rico sur Twitter qui m'a envoyé le petit tweet pour.
Si tu dis que tu préfères Mimi Mathy à Charlize Theron.
Alors, c'est pas la même utilité.
Hein?
Bah c'est pas le même. Comment ça la même utilité? C'est quoi ce
mélange?
Putain, je tiens à m'excuser d'ores et déjà tout de suite. Pardon, voilà, toi c'est
ça. On veut bien là parce que c'est un
sujet. Ouais, voilà, pardon. Je m'excuse
d'en parler un peu aussi.
Allez, Joséphine.
Mais le Rui Barros, Rui Costa, c'est même pas le même sport.
Mais comment il peut dire ça?
Mais t'es fou, Barros, quoi, mais Rui Costa, mais c'était un joueur
mais
énorme.
Mais tu comprends pas, c'est Tchur qui parle. C'est bah, lui, tu faisais 1m60. Bien sûr, c'était pas un joueur énorme.
J'ai connu Rui Barros.
Bah, si, il a joué à la Juve, t'es sérieux?
Bien sûr, je connais.
Rui Barros, le nom.
Mais je connais Rui Barros. Je connais pas Mimi.
Le connais, c'est Mimi Mati.
Mais tu connais pas Mimi Mati? La joie à Sassuolo. Mimi Mati, tu connais pas?
Non.
Ah putain, il est nul ce mec.
Giorgio Mimi Mati.
Vite fait, on cadore ton bidon.
Cador, Alassane Pléa, évidemment. Rendez-vous compte.
Il a marqué pour Gladbach.
Ouais, il marque pour Gladbach. But décisif puisque Gladbach s'impose 1-0 ce week-end, ce qui fait qu'il y a statu quo en tête du classement en Allemagne. Dortmund, Bayern, Gladbach. Au moment où Alassane Pléa marque son but, un ballon touché, but. Non, 5 ballons touchés, un tir, un but.
Ouais, mais il marque peut-être à la deuxième minute.
Non, en 40e.
Ah ouais.
C'est un truc de fou, c'est-à-dire que Gladbach, ils ont besoin de très peu d'occasions. Ça nous rappelle un peu le Gladbach de Lucien Favre d'avant, c'est-à-dire un Gladbach très efficace, chirurgical, qui a pas besoin de 50 occasions, en l'occurrence une seule. En plus, dans une situation où il est très excentré, les Français, faudra peut-être faire un petit focus un de ces jours sur les Français de Bundesliga, entre Haller, Alassane Pléa, Gladbach, d'autres aussi dans d'autres clubs qui brillent. On a une belle représentation française en Bundesliga. Et le bidon, pour finir peut-être Nico, c'est Sabitzer qui a tout raté avec Leipzig et qui a évité que Leipzig, qui méritait le match nul, arrache un match nul contre Dortmund qui aurait été tout à fait normal.
Merci mon Lorto. Dans quelques instants, eh bien, on filera en Italie avec l'avis tranché de Simone Rovera qui concerne Mauro Icardi. Alors la novella, je sais pas comment on dit d'ailleurs en italien, qui se poursuit, il a toujours pas prolongé. Son agent s'accompagne Wandanara qui continue de provoquer maintenant carrément les dirigeants de l'Inter. On en parle juste après ça.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo et de nos drôles de dames, Fred Hermel, David Lortolari, Simone Rovera. Tiens, je vous rappelle, hein, vous savez qu'il y a l'After Académique. L'un d'entre vous rejoindra la bande de l'After dans quelques jours. Alors sachez qu'on a été victime de notre succès et que du coup, eh bien, on décale la prochaine étape à dans une semaine. C'est-à-dire que il y en a un d'entre vous, 7 finalistes qui viendront et ce sera du 4 au 10 janvier. Voilà, on décale d'une semaine. On a reçu de plus de 1600 vidéos, le temps de tout visionner et de faire ça bien. Février, j'ai dit janvier, c'est février, ça paraît logique. Hein. J'ai pas les dates, c'est pas ça. Les chiffres, tout ça aujourd'hui.
Y a pas grand chose ce soir-là.
Voilà, voilà. Du coup, ce sera du 4 au 10 février prochain. On va passer à la Serie A, mon Simone Jingle. Simone.
Chiellini, que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite. J'ai totale confiance à Giorgio Chiellini dans le terrain et dehors le terrain.
Quelques résultats. Ils ont fait quoi la Juve ce soir, Simone?
3-0. Victoire 3-0 face à Chievo.
Voilà.
Dernière au classement, Chievo est une des pires matchs depuis le début de la saison de Cristiano Ronaldo.
Qui a raté un péno, donc.
Il a raté un péno, il était nerveux.
Il a rendez-vous. C'est pas normal.
Hein. Ouais. Ouais, il est préoccupé.
Il était...
Demain, c'est pas terrible comme.
C'est pas un peu égoïste. C'est pas une machine, aussi. C'est un homme.
Voilà. Alors, tu voulais parler de l'Inter qui a fait match nul 0-0 face à Sassuolo. Et tu voulais
match
parler d'Icardi.
C'est vraiment pourri, hein, de l'Inter.
Vraiment?
Horrible. Horrible où Sassuolo aurait même mérité de gagner. Et c'est Handanovic qui a gardé cette petite pointe à l'Inter. Mais vraiment une Inter en panne. Et je trouve qu'entre les raisons pour cet Inter en panne, c'est cette histoire qui n'arrive pas d'aboutir, la prolongation de Icardi. Mon avis tranché, c'est très simple. L'Inter doit à tout prix prolonger Icardi et faire un effort sur les salaires. Parce
mais
que
le prolonger dans le but de le garder ou de toute façon
de
il faut le gars il sera vendu cet été.
Parce que
lui il a pas envie de rester, non?
La dernière chose, entre les aspects pour lesquels il faut à tout prix le prolonger, c'est pour enlever cette clause, je rappelle, qui est valable entre les 1er et le 15 de juillet, que pour le club étranger.
100 millions, quoi.
110 millions d'euros.
C'est un limite, prix
aujourd'hui.
C'est,
pour lui,
c'est...
quelqu'un va les mettre.
Bah, évidemment,
tout de suite,
c'est une poignée de figues.
Voilà. C'est un prix qui, aujourd'hui.
C'est la bonne figue.
C'est rien pour certains clubs. Mais quand même, ne mettent pas l'Inter à l'abri de pouvoir acheter quand même du très lourd avec cette même argent. Donc, tu perds d'un avant-centre très important, mais tu peux pas acheter un avant-centre aussi important avec cette même argent. Les autres raisons, c'est très simple. L'Inter, aujourd'hui, manque énormément de caractère. N'a pas un leader. On le voit sur le terrain, on le voit dans les moments difficiles. Icardi n'est pas un leader, mais c'est la star, c'est le meilleur buteur, c'est le capitaine, c'est un joueur important. Lui donner l'argent qu'il te faut, le prolonger et le garder aussi pour la saison prochaine, c'est un signal à l'Inter de vouloir continuer un certain projet et de garder quand même des hommes importants. Et après, il y a les performances d'aujourd'hui.
Faut qu'il ait envie.
Icardi,
hein.
Depuis que... Il y a cette soap opéra, parce que c'est vrai qu'avec son agent qui est sa femme, tout se rassemble
en fait, tous les trois jours, elle balance quelque chose, c'est ça?
Il y a une semaine, sur un site argentin, disait des informations que nous avons de Vandanara et Cardi ne prolongera pas. Avant-hier, sur une émission italienne, elle a dit c'est sûr qu'il va prolonger, on doit trouver l'accord.
Et en même temps, pour un club là, qui va foutre les 100 millions pour le recruter, parce qu'il a le niveau pour jouer dans les grands clubs européens, savoir qu'il va falloir que tu gères sa femme qui est son agent, ça doit être bien relou, ça. Et ça va refroidir pas mal de clubs. Toute proportion gardée, c'est comme
la gestion
qui prend Rabiot et qu'il faut prendre la daronne avec. Quoi, tu vois
avec toute la gestion hyper
c'est
médiatique.
C'est méga relou, quand même, ce genre de gestion.
Tu vois, Icardi, quand même, Simone, Icardi, on en parle au Real depuis très longtemps. Il a failli venir en janvier dernier.
Un moment, pour un dirigeant, savoir que tu vas l'avoir dans les pattes tout le temps, à parler dans les médias.
C'est vrai, la raison, Daniel, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et un club comme le Real n'aime pas trop ce genre de choses.
Il y a plusieurs clubs qui n'aiment pas ça.
Elle est un peu fantaisiste, sa femme.
Bah donc, non, mais c'est surtout, non, mais là, ce qui peut être un peu dérangeant pour les dirigeants, mais aussi un peu inquiétant pour Icardi, c'est qu'elle communique tout le temps vers l'extérieur, quoi. Ouais, elle pourrait négocier et ne rien dire. Elle fait ses fameux tweets un peu subliminaux, on comprend pas ce qu'elle veut dire. Il y a l'impression qu'elle expose tout.
Il y a un mois et demi, on avait parlé, elle avait publié une photo en disant c'est toute la nuit que j'ai réfléchi à un nouveau contrat. Oui. C'était le contrat avec Nike qu'il a signé 2-3 jours plus tard. Donc, elle a fait un peu.
Il peut pas lui dire de se taire de temps en temps à sa femme, lui. Il peut pas lui dire de se taire de temps en temps.
Peut-être qu'il est d'accord.
Lui, il y a quelques jours,
c'est pas sa femme, c'est son agent.
Il a fait un tweet en disant je confirme que tous mes intérêts, aujourd'hui et pour toujours, seront gérés par ma femme et mon agent Vandanara. Donc, il a donné totale confiance au travail qu'elle fait. Elle est aussi un personnage qui la travaille énormément dans les médias. Elle fait une émission télé très suivie en Italie. Sur une chaîne Mediaset.
Oui, donc en plus, il n'y a pas énormément de chances qu'elle quitte l'Italie, parce que si elle bosse à la télé là-bas, tout ça, c'est...
Après, elle est argentine, elle peut bosser, elle peut bosser dans une autre émission. En Espagne, il y a plein d'émissions télé, peut-être elle pourrait aussi bosser là-bas. Je ne sais pas ça. Ah oui, mais quand même,
Mais les dirigeants, ils réagissent comment par rapport à ça, là, les dirigeants de l'Inter?
Les présidents Zhang et les autres dirigeants, comme Marotta qui vient d'arriver, ils ont dit qu'il n'y a aucun souci, Icardi c'est le capitaine, ils vont trouver la corde sans souci. Donc il y a l'Inter.
On peut pas oublier un peu tous ces côtés-là et se dire que Icardi il a envie de jouer dans un très grand club uniquement ça. Et
on n'est pas persuadé, on n'est pas convaincu qu'il a envie de partir. On ne sait pas s'il a vraiment envie de partir.
Ouais, mais moi je pose aussi que le projet de l'Inter peut peut-être ne pas être celui dont il rêve.
C'est vrai. De l'autre côté, on parle d'un joueur qui va faire 26 ans cette année, qui a fait sa première saison en Ligue des Champions avec l'Inter. Cette année, il a jamais joué, il a fait pas mal, 4 matchs, 4 buts en 6 matchs, mais pour dire le match décisif,
il joue l'année prochaine.
Il a énormément de chances, mais sur le match décisif face au PSV, oui, il marque un but, mais l'Inter doit gagner, ne gagne pas, c'est pas là où il montre d'être ces joueurs qui fait quelque chose en plus pour faire qualifier son équipe.
Bah raison de plus Simonet pour pas louper le coche avec une clause qui va tomber cet été par un club qui les mettra. Mais
moi j'ai dit qu'aujourd'hui
si jamais t'es convaincu que effectivement à 200 ou à 300 millions personne n'ira s'il y a une autre clause, et ben lui il attend cet été, il veut partir.
La chose que je veux dire pour l'Inter, mais moi j'ai dit l'Inter doit tout faire pour garder le prolonger aussi, parce que aujourd'hui même un grand club anglais, mais pas grand club européen qu'on peut être Chelsea ou Tottenham, peut mettre 110 millions. Je ne sais pas s'il y a Chelsea ou Tottenham, il peut gagner le championnat et la Ligue des Champions. Donc, pour l'Inter, l'intérêt, c'est de garder sa star. Et aussi, pour finir, les performances sur le terrain. Aujourd'hui, ça fait un mois et demi, il a mis un but. Sur les 6 derniers matchs, il a mis un but. Sur penalty, on voit qu'il n'est pas au 100% de sa forme. Il n'est pas tranquille. Et ça influence beaucoup l'Inter et ses performances.
Alors, tu voulais évoquer également un autre attaquant pour qui, en revanche, ça fonctionne vraiment très bien. C'est Quagliarella, qui a encore marqué d'ailleurs avec la Samp face à la Fiorentina. Match spectaculaire.
Il a 45 ans maintenant. Il va faire
36 ans.
C'est fou quand même.
36 ans.
Il est co-meilleur buteur de Serie A, là.
Co-meilleur buteur. Zapata, dont je veux dire un mot, et Cristiano. 36 ans. Il a marqué sur les 10 derniers matchs consécutifs qu'il a joué. Oh. Donc, il peut battre. Il peut arriver, s'il fait le 11e, à égaler les records de Batistuta avec la Fiorentina. Donc, histoire incroyable. Un joueur qui a joué plus de 100 matchs avec la Juve, plus de 100 matchs avec la Samp et avec les Torino, si je ne me trompe pas. Donc, un joueur qui a joué dans des importants clubs italiens, mais qui est devenu un peu comme Di Natale, grand buteur, qu'après les 30 ans. Comme s'il avait finalement mûri, il avait...
Et dans des clubs moyens, finalement.
Et dans des clubs pas de plus haut niveau, mais avec la Juve, il a laissé des très bons souvenirs. Il a joué avec Naples aussi.
Ouais, mais donc, c'était une sorte à la Juve, et c'était, même s'il a joué beaucoup de titulaires, c'était une sorte de remplaçant de luxe un peu.
Ouais, c'était les périodes où tu avais quand même de Matri, de Vucinic, c'était pas, il y avait pas des grands stars, donc lui n'arrivait pas à être non plus la vraie star.
Et puis il a connu l'époque noire là de l'équipe d'Italie où en 2010 ils se font taper au premier tour là dans le groupe.
Mais aujourd'hui, imaginez,
Slovaquie, Nouvelle-Zélande.
Même Mancini dit si l'année prochaine il sera au top et continue à mettre des 15-20 buts, pourquoi pas l'amener à l'Euro. Donc il vit presque en deuxième jeunesse. Je parle aussi des Zapata qui, en novembre, le 4 novembre, marque son premier but en championnat face à Bologne. Aujourd'hui, c'était la 11e journée. Aujourd'hui, il est à 14. Il a marqué sur les 13 buts sur les 7 derniers matchs. Et là, encore une fois, à la fin de la phase allée, il faut dire chapeau à un certain monsieur qui est Gianpiero Gasperini, qui prend les joueurs et les transforme. Fait devenir des bons joueurs, des grands joueurs ou des joueurs d'avenir. Donc, si la réussite des Zapata à l'Atalanta ne peut pas être, ne peut qu'être liée à la réussite de Gasperini, et je vois un Atalanta qui va lutter pour plusieurs mois, peut-être jusqu'à la fin, avec Roma, Lazio et Milan pour la quatrième place.
Tu crois?
Ouais. Atalanta, c'est une équipe qui va sûrement trouver l'Europe s'il n'y a pas des crashs incroyables sur la route, mais qui fait plaisir à être à voir. Meilleure attaque de la Serie A, vraiment une belle équipe. Et Milan qui gagne aujourd'hui. Milan qui gagne 2-0 à Gênes dans un match.
On a toujours l'impression qu'ils sont en sortie de route permanente, et dans ce championnat ils arrivent à s'accrocher et ils sont quatrième là.
La Roma a beaucoup de problèmes. Elle a gagné ce week-end, mais la Roma a encore du retard, elle a accumulé du retard dans la première partie de la saison.
Il devient quoi, Pastore?
Pastore, il joue pas.
Toujours
il
a blessé. Joué un coup.
Il est plus blessé là.
Non, il est plus blessé, il a joué.
Ah là, il est entre deux blessures, en fait.
Et attention, aujourd'hui, il y a, qu'on peut dire, la nouvelle pépite du foot italien ou de la Roma qui a pris la place de Pastore, qui c'est Nicolò Zaniolo. Vous vous souvenez quand il a joué pour la première fois de sa vie, sa première match a été au Bernabeu face au Real Madrid.
C'est lui qui a marqué là, le but en tombant par terre là, ouais, contre le Toro ce week-end là.
Extraordinaire.
Quand il tombe par terre, il se relève sur le cul, ouais, il pivote et il met le frappe sous la barre.
Le premier but qu'il a mis il y a deux semaines face au Sassuolo, il fait deux feintes, il fait tomber les gardiens, les défenseurs et après il lobe.
Non,
c'est un joueur d'une qualité extraordinaire. Les premiers matchs qu'il a joué dans sa carrière, c'était au Santiago Bernabeu. Peut-être on pensait que c'était un pari risqué de Francesco. Peut-être pas. Il avait été sélectionné par Roberto Mancini avec zéro match en Serie A. C'est probablement la belle.
À ce moment-là, il a eu la tête dans le frigo pour prendre du champagne. Il a raté le but.
Attends, mais j'ai pas entendu de quel match. Le match à Bernabeu, tu parles?
Ah oui, c'est Madrid.
Ah oui, non, à Bernabeu, mais non, mais il n'y a pas de champagne à la buvette.
Ah, même en loge.
Ben non, mais moi je suis pas en loge. Non, des fois je suis en loge, mais pas pour les grands matchs.
Alors, hein.
Moi je suis en loge au Racing Club de Lens, là, oui.
Ah bah là, t'es même, là, c'est même plus que ça, là-bas.
Là, c'est à la droite.
Mais il n'y a pas de champagne.
Non, c'est plus de la bière.
Bah oui, chez nous, c'est de la bière, quoi.
Il y a une frite de bière.
Non, mais à Bernabeu, oui,
avec modération.
Bien sûr.
On a du bouillon l'hiver. Du bouillon, tu sais.
Alors,
en salle de presse, t'as du bouillon en Espagne?
Ouais.
En Espagne,
c'est à Madrid, c'est vraiment Madrid. Bah, un bouillon, c'est un bouillon, tout ça.
Oui,
j'aime pas trop, alors je prends un lait au chocolat.
D'accord, tranquille, c'est bien.
C'est vraiment
tout ça
pour
faire des
choses, quand même.
Bah, oui, mais non, mais il faut que les gens découvrent notre vie quotidienne.
Mais bien sûr.
Mais c'est ça, tu vois. Parce que nous, on y est sur les stats, c'est pour ça.
Mais
bien, on a fait qu'on l'éche.
Si.
Ouais.
De quoi?
Concernant Milan, faut faire attention dans les prochaines semaines à voir qu'est-ce que va devenir Lucas Paqueta, qui est toujours plus intéressant, ces pépites qu'on a vu arriver du Brésil pour 35 millions, qui était un peu ces joueurs qui a fait qui a rendu fou la UEFA parce que Milan était sous sanction de fair play financier, ils ont quand même acheté cette pépite au Brésil. Aujourd'hui, il a fait un match, certaines choses dans ces matchs face au Genoa, vraiment avec un talent extraordinaire. Peut-être que Milan a trouvé les joueurs qui fait rêver les supporters qui manquaient.
Il y a une équipe.
J'ai une question à poser.
Vas-y, Fredo.
Ouais, parce qu'il y a un problème, Marcelo, au Real, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, ça fait quand même deux matchs de suite, deux matchs importants, les deux matchs contre De Séville où Marcelo est sur le banc, où il est.
Qui prend sa place d'ailleurs?
C'est Reguilón, le jeune du centre de formation. Qui est très bon d'ailleurs.
Et Marcelo était tellement important au Real. Tu parles des gros matchs, hein, des vrais gros matchs. Dans les décalages qu'il proposait et tout, c'est quand même très compliqué à remplacer. Hein. Même si tu mets un joueur bon, tout ce que tu veux. Lui, c'était au-delà parce qu'il était milieu, il était défenseur et milieu en même temps.
Non, mais là.
Non, puis c'est surtout comment on en arrive là, Fred, quand même.
Bah, quelques kilos de trop.
Il est un peu fatigué.
Il a tout lâché.
Il a tout lâché.
Pas assez de concurrence. Il y a eu Théo Hernandez, le frère de Lucas, qui était là l'an dernier, mais qui a pas représenté une concurrence. Donc voilà, à un moment. Et puis Solari, c'est Solari, quoi. Il a mis Isco sur le banc.
Mais ils vont recruter à ce poste-là, tu penses, là, du coup? Au Real?
Ça dépend. On va voir Reguilón, hein. Parce que Reguilón, c'est pas mal, hein. On va le voir en Ligue des.
Moi, je sens Alex Telles au Real, je te le dis.
Ouais, pourquoi pas. De toute façon, ils vont recruter tellement de gens.
Déjà, ils vont prendre
d'ailleurs, ils vont prendre un mec de Porto, là.
Il a réussi à nous glisser.
Grimaldo, il ira à City.
Il est d'ici qui commence à croquer sur les transferts de Porto, lui.
Bon, t'as raison, oui.
C'est
pas de ça chez nous. Hein. Et Grimaldo, je le vois à City, parce que Guardiola l'aime beaucoup. Il l'a bien connu au Barça.
Et Militao, il est bien.
C'est un très très bon défenseur central, ouais. Ouais, vraiment. Et ça, c'est une grosse découverte qu'ils ont faite. Hein. Parce qu'il est là, il vient d'arriver, il cartonne déjà. Lui et Philippe, là, les deux, là. En plus, il peut jouer, il joue couloir de temps en temps aussi. C'est vraiment un très très bon défenseur, Militao.
Donc la question que je voulais poser,
c'est quand est-ce qu'il signe à la Juve, quoi, Marcelo?
Bah c'est ça.
En Italie, on parle énormément de contacts quotidiens. On parle des contacts même quotidiens entre Marcelo et Cristiano.
Bah ils sont très potes.
Ah bah ils sont très potes. Alors ils étaient fâchés à un moment parce que Marcelo avait dit que Casillas méritait le Ballon d'Or et il lui a fait la gueule pendant 6 mois. C'est vrai, c'était du temps où Casillas était au Real et donc il avait pas
aidé. Bon, il a appris la leçon, non, mais apparemment Cristiano est en train de faire un forcing pour la faire revenir et
Je ne suis pas étonné que ça se fasse.
Aujourd'hui, ils ont Alexandro qui est un très bon latéral gauche et un joueur d'avenir. Donc, si jamais il y aura l'occasion, pourquoi pas. Mais c'est la priorité de Cristiano, mais pas la priorité de la Juve en ce moment.
Oui, ce qui est quand même une sacrée nuance.
Oui.
C'est pas valable, parce que c'est pas Cristiano qui recrute, pas encore.
Tu voulais glisser un mot, Simone, sur le Napoli qui t'a beaucoup séduit ce week-end également.
Qui a fait, à mon avis, une des meilleures matchs de la saison en Serie A. Très, très bon. Face à la Lazio, même si Napoli n'avait pas certains joueurs importants comme Insigne, Koulibaly,
Milik, il a un coup franc.
Oh, l'impression un ballon téléguidé, Lucarne.
Et on redécouvre, ou finalement on découvre Milik dans tout sa.
Là, il jouait potentiel.
Oui, il joue 9, 4-4-2 avec Mertens et Milik, parce qu'il
est suspendu.
Il n'a jamais eu cette continuité. C'est-à-dire, ah, c'est on l'attendait.
Il blessé quand il est arrivé.
Deux saisons d'affilée.
Tu veux dire qu'il est plus régulier, quoi.
Et là, il est plus régulier. Il dépasse la barre des 10 buts. On voit qu'il est capable de marquer sur coup franc. Il avait marqué un coup franc exceptionnel aussi à Cagliari, dans les jeux, de la tête. On voit vraiment l'attaquant que devait remplacer Higuaín dès son départ. Et Napoli,
c'est marrant,
finalement,
il a pas un physique à mettre des coups francs comme ça.
Non, on devrait,
un peu longiligne, un peu fin.
Et par contre, la cheville est délicat, extraordinaire. Et Naples, avec beaucoup d'accent, fait une de ses meilleures matchs de la saison avec Fabian Ruiz qui est en train de devenir vraiment le patron du milieu, ce que voulait Carlo Ancelotti qui arrive à l'imposer. Il n'y avait pas Alan, il n'y avait pas Amsic.
Elle ne va pas devenir monotone la saison de Naples parce que là ils sont deuxième assurés, il n'y a plus rien à part ça, non?
L'espoir de Laurentiis et l'envie d'Ancelotti, c'est de gagner. C'est-à-dire, tu as l'Europa League, tu as la Coupe d'Italie.
Ah oui,
surtout l'Europa
League.
Surtout l'Europa League pour Ancelotti, c'est les trophées qu'il faut gagner.
Ah, ce serait bien, ah, voilà, ce serait extraordinaire.
Et la situation est parfaite parce que tu es sûr d'être en Ligue des Champions.
Ils sont tranquilles, ils sont deux, ils sont sûrs d'être dans la zone.
Et tu as un effectif de très bonne qualité.
Merci beaucoup, Simonet. Merci, les gars. Voilà,
je voulais
un petit message pour terminer sur l'application Direct Studio. Rui Barros ou Rui Costa, quel dilemme, nous dit Ekpeba24. Je dis Rui Barros car j'ai quand même une carte postale avec sa photo quand il était à l'ASM, mon premier amour dans le football. Bah moi c'est pareil.
Voilà. Oui, enfin bon.
Voilà. Et on embrasse Mimi Mati, bien entendu. Merci les gars. À demain, bien sûr.
Salut à tous.
Ciao. Merci tout le monde.
RMC Football Show. L'After Foot.